Non mais moi je
Le café du monde nouveau, le podcast du foyer Notre-Dame des sans-abri.
Un café s'il vous plaît.
Un café pour la table 6 là.
Quand on arrive, on dit bonjour et on se prénomme, on dit bonjour à chaque personne par son prénom, c'est très important.
Tout ce que je souhaiterais, c'est voir une télé chacun. Parce que c'est un peu compliqué de dormir sans pouvoir s'évader un peu de tout ça.
Il y a une table de ping-pong, on a des bancs, des chaises. On a essayé de faire des trucs un petit peu sympathiques qui peuvent détendre une ambiance un petit peu zen.
Nous sommes maintenant presque family.
Il y a des gens, 5 ans ici.
Le bâtiment, il est énorme, la population, elle est énorme, donc il y en a plus de 200 personnes. Mais on arrive toujours à satisfaire ce qu'on peut, le oui. public et oui, tout oui. ça. Donc avec les moyens et les outils qu'on a.
Un café s'il vous plaît. Un café pour la table 6.
Le café du monde nouveau.
Aujourd'hui, pour ce 4e épisode du Café du Monde Nouveau, nous nous sommes déplacés dans ce qu'on pourrait appeler le vaisseau amiral du foyer Notre-Dame des Sans-Abri, le CGR. C'est le centre Gabriel Rosset. Bonjour Brigitte.
Bonjour. Alors ce centre est installé depuis plus de 70 ans à la même adresse, rue Perchevrier, et arbore depuis cette période sur la façade les 4 mots qui résument à elles seules les valeurs des sans-abri. Accueillir, héberger, accompagner et insérer.
Et tout au long de notre visite, Melville sera notre accompagnateur, responsable adjoint du site. Il a une parfaite connaissance du lieu et surtout de l'ensemble de ses acteurs, qu'ils soient salariés ou passagers.
Mais avant Melville, nous allons démarrer avec Ginette. Ginette, c'est la responsable des bénévoles sur ce site. Depuis de très nombreuses années, elle vient ici au moins une fois par semaine, à l'écoute des passagers, mais aussi en charge d'un grand nombre de missions au sein du PAR.
Et le PAR, Brigitte, c'est le pôle d'accompagnement renforcé, un accueil de jour spécifique situé juste en face du centre Gabriel Rosset, un havre de tranquillité qu'elle nous présente maintenant.
Le café du monde nouveau.
Alors moi je suis Ginette Drevet, je suis bénévole au foyer depuis 1995. Je vous accueille donc au parc, qui est un lieu, un accueil de jour spécifique qui fonctionne 5 jours par semaine, où on accueille en principe les personnes les plus fragiles qui logent au foyer en face.
Comment ça s'organise ce lieu alors? On peut visiter?
Bien sûr, ça sera avec plaisir. Donc il y a plusieurs zones, hein. C'est le bureau des salariés, éducateurs, etc. Donc c'est bien de leur dire bonjour.
Bonjour.
Là c'est une petite zone un peu de plus calme, où il y a de la lecture, mais les personnes y viennent très peu. Par contre c'est un lieu où je reçois les bénévoles quand ils arrivent pour la première fois. Je prends vraiment le temps de tout leur expliquer, le fonctionnement mais également les comportements. Les comportements qu'on doit avoir ou ne pas avoir. Là, on a un petit bureau de bénévoles. Ça suffit pour mettre nos sacs. Et normalement, on prend une étiquette. Je ne la porte pas parce que... Ils me connaissent bien. Là, c'est une zone de repos. On a un monsieur qui est en train de se reposer, Bruno. Chacun peut venir quand il en a envie. Là, c'est une zone de jeu. Alors là, on a parfois des gens qui viennent un petit peu, on les laisse rentrer, qui viennent du foyer pour faire une partie ou deux.
Alors c'est quoi, c'est baby-foot?
C'est baby-foot, mais c'est plus du billard. Billard a beaucoup de succès. Et puis là, on va rentrer dans la zone vraiment où on vit. C'est la zone où on vit tout le temps. Donc c'est là où, quand on arrive, on dit bonjour et on se prénomme, on dit bonjour à chaque personne par son prénom, c'est très important. Ils nous connaissent également, les bénévoles, par notre prénom. Bonjour, ça va? Ça va. Voilà, donc aujourd'hui c'est le jeudi. Alors le jeudi matin, on a un déjeuner spécifique. Tous les jeudis matins, donc on a... Un peu plus de croissants, des pains au chocolat, etc. Et on se met tous autour de la table, le plus possible, et on déjeune ensemble et on parle. Alors on parle de tout et de rien. Pour les bénévoles, il y a quand même quelques sujets qu'on n'aborde pas, nous. Et il faut savoir arrêter les sujets qui risqueraient de faire polémique. On est là pour être reposé, pour être détendu.
Alors on a quoi? On a des tables, des chaises, une cuisine, c'est ça?
Le confort essentiel, vole pour qu'on soit bien. Alors c'est ouvert de 9h du matin à 16h, sauf 2 jours par semaine où il y a des réunions de salariés.
C'est pas un lieu de repas, c'est un lieu de vie.
Alors
toute la journée.
C'est un lieu de vie, par contre, dans les activités. Alors on a très peu d'activités très précises, mais tous les 15 jours ou 3 semaines, il y a un repas collectif. Et le repas collectif, il est préparé longtemps avant, puisque l'animateur salarié va solliciter quelqu'un. Quelqu'un va dire, moi je veux bien faire aujourd'hui quelque chose. Donc ça va se faire collectivement ce repas. C'est une longue préparation, il faut aller acheter les produits et la personne qui s'est engagée, ben, c'est, il faut qu'elle soit là. Donc ça c'est une fois tous les 15 jours ou 3 semaines.
Et ça, ça fonctionne bien.
Ah, ça fonctionne. Alors ce jour-là, ils sont tous là. Là, il n'y a pas grand monde, mais ce jour-là, il y a toutes les tables de prise. Des fois, il faut aller en chercher d'autres.
Ça fait combien de personnes à peu près? 25 personnes?
Oh oui. Par exemple, ce monsieur-là qui est à côté de moi, c'est Bachir. Bachir, il n'y a pas très longtemps, il nous a préparé un repas. Ça s'appelait comment?
Quand vous avez... cool.
Tout le monde s'est régalé. Alors on en fait toujours plus. Parce que à ce moment-là, non seulement il y a toutes les personnes qui sont accueillies dans ce lieu, mais les salariés d'à côté du foyer ont grand plaisir de venir déguster les repas préparés par les passagers. On appelle les messieurs des passagers. Ça, c'est Bachir, donc. Il ne loge plus au foyer, il a un logement extérieur depuis longtemps. Il y revient parce qu'il a été très très longtemps avec nous.
Et du coup, vous avez un petit studio à la
maison? Un petit studio, ouais.
Oui. Puisqu'il souhaite revenir, c'est avec plaisir.
C'est plutôt bon signe.
Oui. Voilà, c'est avec plaisir. Alors, dans cette situation, on en a deux personnes qui reviennent régulièrement. On parle du lien, c'est vraiment une question de lien. Il y avait un lien très fort.
Vous étiez resté combien de temps ici, vous vous rappelez ?
15 ans.
Donc ça crée des liens, 15 ans. Hein.
Ouais, je ne peux pas m'en passer. Il faut tous les jours que je fais un tour là. Je mange à midi là et tout, après je rentre.
Samir est avec nous depuis quelques années déjà aussi. Il vient de temps en temps, il n'aime pas trop qu'on l'embête, donc je vais le laisser tranquille. Là, on a Claude.
Bonjour Claude.
Bonjour. J'ai atterri, bon, il y a un moment, et je suis au foyer, ben, heureusement, parce que j'étais dehors. J'ai voyagé beaucoup et bon, j'ai fait la marine nationale, j'étais Polynésie, je suis revenu, puis j'ai divorcé, puis voilà, je me suis retrouvé tout seul, quoi. J'ai deux gosses.
On se connaît depuis très longtemps en plus, parce que moi j'ai été, avant d'être, enfin en étant bénévole ici, j'allais dans les accueils de jour, et à l'époque je croisais Claude à la rencontre d'autres accueils de jour du foyer.
J'ai fait Fourvière, enfin bon.
Oui, Claude, il aime bien, il écoute les informations, et oui.
C'est caractère comme ça.
Votre point d'ancrage, c'est ici.
Oui, oui, ben pour l'instant, oui, heureusement.
Vous voulez dire votre âge, Claude?
J'ai 75 ans.
Quand on est avec les personnes comme Claude, par exemple, on sait ce qu'il nous dit. Hein. Moi, il m'a beaucoup fait voyager parce qu'il a beaucoup voyagé. Donc, de temps en temps, on parle de voyage.
Toulon, Polynésie, bateau. Hein. Gibraltar, Panama. Un mois et demi pour aller là-bas. Mon boulot, je me déplaçais, donc je voyageais tout le temps.
Oui. Merci Claude.
Merci Claude. Là, ce sont des personnes qui viennent depuis pas très longtemps. Est-ce qu'on peut une minute vous parler ou pas? Vous voulez? Voilà, il n'y a pas de caméra.
Vous êtes là depuis longtemps?
3 ans. 3 ans et 7 mois. C'est tout.
Il a combattu pour la France.
Moi, ça fait à peu près 2 ans que je suis ici. Ça va bien.
Oui. Et vous venez de quel pays?
Je viens de l'Algérie.
D'accord.
Mais ça fait depuis 1977 que je suis en France.
D'accord.
J'ai toute ma famille ici. J'ai mes enfants, mes petits-enfants, mes frères, mes sœurs. Je suis resté ici.
Là, vous habitez là ou vous venez pour la journée?
Non, j'habite ici.
D'accord.
J'habite.
Oui,
est-ce que vous voulez dire un petit mot sur ce lieu-là? Quand vous venez au PAR, le pôle d'accompagnement renforcé.
Quand on arrive ici au PAR, il y a du café, il y a du gâteau, il y a des jeux, comme le domino, il y a la télévision, il y a la radio. On se plaint pas, quoi.
Parfois, je rappelle les règles. Alors, des fois, très haut, je dis, quand on rentre ici, on dit bonjour, on dit s'il vous plaît, on dit merci. Des fois, je rappelle des règles. C'est pas toujours, c'est des fois un petit peu dur pour vous. Mais quand on est en société, quand on est en groupe, il faut bien qu'il y en ait des règles. Que c'est important.
Et quand le bar ferme à 4 heures, vous allez où?
On retourne au foyer ou bien on va se promener un peu.
C'est bonne journée.
Merci à vous. En Ginette, là, il y a une partie aussi extérieure.
En plein été, c'est magnifique parce qu'on a une vigne qui est magnifique. Oui. Donc, c'est vrai qu'on a souvent, l'été, on est pratiquement toujours dehors. Hein.
Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Quand quelques bistrots, contre peau et pas chaud, nous prenaient une étoile, nous récitions de vers, courbés au autour du poêle en oubliant l'hiver.
Alors Brigitte, une petite précision concernant justement Ginette.
Oui, je voulais en profiter pour rappeler, ou au moins en tout cas le dire, que Ginette a reçu des mains de François Hollande en 2015 la Légion d'honneur. Celle-ci est venue récompenser sa longue action de bénévolat et Ginette est toujours là.
Et félicitations Ginette. On va retrouver maintenant donc Melville.
Donc bonjour, je suis Melville Menuet, adjoint au responsable du centre Gabriel Rosset. Je suis arrivé du coup dans cette structure le 1er septembre 2021 et je suis ravi de vous accueillir pour ce podcast avec les explications et cette déambulation qui va avoir lieu sur les différents sites, car on va à la fois traverser la rue parce que nous étions au PAR, donc au pôle d'accompagnement renforcé. On va traverser la rue pour aller sur ce qu'on appelle le CGR. Donc là où vous étiez au PAR, il y a aussi de l'hébergement de personnes sur un dispositif de logement partagé. On accueille du coup 25 personnes sur des appartements partagés financés dans le cadre de l'allocation logement temporaire avec un public dit de personnes isolées. Les appartements sont du coup pour 4 personnes, des appartements avec un public féminin et d'autres avec un public masculin.
Alors on va passer en face maintenant, on va traverser la rue, on va essayer de ne pas se faire écraser.
Allons-y.
Alors là, on est où ?
Donc là, bah, on est en train d'arriver du coup sur le foyer du centre Gabriel Rosset.
Le foyer, on voit donc en quelque sorte la devise. Hein.
Voilà, insérer, accompagner, héberger, accueillir. Voilà, on va entrer.
Alors là, on arrive dans un couloir.
Voilà, nous sommes du coup sur la porte principale de l'entrée. On va du coup passer par l'accueil. Un collègue à moi, un agent d'accueil, Mehdi. Ensuite, vous avez l'espace principal.
Là, on arrive dans une grande salle, c'est
voilà.
Ça ?
Voilà, tout à fait.
Très, très lumineuse d'ailleurs.
Très lumineuse, où les personnes du coup peuvent... Il y a une télévision, ça leur permet d'avoir un petit peu accès à l'information qui peut y avoir. Un autre lieu de travail pour les collègues. On a avancé face à l'accueil, vous avez le point santé, parce qu'une des spécificités du lieu, c'est d'avoir un point santé, parce que le point santé est composé d'une équipe de professionnels de santé, dont des infirmiers.
C'est ouvert tous les jours, ce point santé ?
Tout à fait, oui. Tous les jours de la semaine.
Avec des infirmiers qui font partie de l'équipe.
Tout à fait, oui. Donc des infirmiers...
Qui connaissent leurs malades.
Alors, effectivement, parce qu'on a donc les personnes que nous accueillons ici, pour un certain nombre d'entre elles, ont des difficultés de santé. Donc il est important, voilà, dans le cadre de la prise en charge qui leur est proposée, qu'on puisse aller sur cet axe-là aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lieu dans lequel nous sommes rentrés, les personnes sont orientées par la maison de la veille sociale. Nous avons plusieurs dispositifs d'hébergement qui sont différents, et les personnes sont orientées par rapport à des spécificités administratives, problématiques sociales, sur ces places-là. On a des places qu'on appelle dans l'accueil inconditionnel, qui représentent la majorité des places proposées ici. Ce sont des places pérennes, donc les personnes qui viennent sur ces places-là, la prise en charge est pérenne. Et on a aussi aux étages supérieurs, parce que le bâtiment est composé de 6 étages, les 2 derniers étages sont pour des personnes qui, elles, sont orientées sur des places CHRS, donc dans le cadre du centre d'hébergement et de réinsertion sociale.
Les personnes restent combien de temps ici ?
Alors, elles restent le temps nécessaire à leur réinsertion. Il n'y a pas de limite de temps. C'est vraiment aux besoins de chacune des situations et qu'une autre proposition puisse leur être faite. Donc, il y a un travail d'accompagnement médico-social qui se fait et par rapport à ce travail-là, derrière, il y a des recherches de solutions qui se font une fois que, effectivement, les problématiques sont travaillées et pour que les personnes puissent accéder à des choses du droit commun comme du logement autonome ou de la résidence sociale ou de la pension de famille, enfin voilà.
Donc on est plutôt sur du moyen, long terme.
Tout à fait, ça. Les choses peuvent aller des fois plus rapidement pour certains que pour d'autres, hein, parce que y a des personnes pour lesquelles effectivement, certes il y a des problématiques sociales à régler, mais il y a aussi des problématiques administratives, et là on est dans des parcours et des prises en charge qui peuvent être longues du fait que les personnes ont besoin d'avoir un certain nombre de droits ouverts pour pouvoir derrière bénéficier d'autres choses.
Est-ce que ça veut dire que la personne qui reste le plus longtemps ici, ça peut atteindre plusieurs années ?
On peut avoir des personnes qui sont sur des prises en charge qui durent plusieurs années, oui, tout à fait.
Et là, vous avez, j'imagine, aussi une prise en charge côté accompagnement moral, entre guillemets, pour qu'elle ne se désespère pas, pour que, voyant partir les autres, eux se disent, et moi, pourquoi je suis encore là ?
C'est important parce qu'effectivement, c'est un gros site, il y a des mouvements, donc effectivement, on a des personnes qui se fréquentent, qui créent du lien ici, et puis ben, ces liens peuvent se rompre du fait que ben, elles doivent passer à autre chose, et pourtant, il reste quand même d'autres personnes. Donc effectivement, un des travaux de nos équipes, c'est de soutenir aussi ce séjour qui est, comme dans la vie normale, des fois avec des périodes plus sympathiques que d'autres, des périodes où ben, les personnes effectivement peuvent avoir des petits coups de mou, et puis au contraire, des périodes plus joyeuses.
Et justement, la question pratique, côté accompagnement, vous avez combien de personnes dans vos équipes ?
Le CGR est composé de 30 salariés, c'est des salariés médico-sociaux, et ensuite il y a on travaille aussi avec des prestataires, ne serait-ce pour la question de la sécurité le soir, oui. Parce que le site n'est jamais découvert de professionnels pour assurer la sécurité des personnes ici.
Des bénévoles également ?
On a des bénévoles qui viennent tous les jours pour soutenir nos passagers. Effectivement, les bénévoles peuvent être sur des différents types de prestations proposées, ça va de cours de français, en passant par la restauration, parce qu'on a aussi un service restauration, on a aussi le service nettoyage, avec qui a une place très importante, parce que c'est un lieu qui brasse beaucoup de monde, donc la question de l'hygiène est très importante, aussi pour respecter nos passagers dans ce qu'on peut leur proposer.
Alors là, on rentre à quel endroit ?
Alors là, on va être, du coup, quand on arrive à l'accueil, très rapidement, on a les bureaux des professionnels, bureaux d'entretien ainsi que la salle de repos de l'équipe. Donc on a deux assistantes sociales, Malika et Marianne. On a aussi trois maîtres de maison, Riyad, Claire et Mohamed. Et ensuite à côté, c'est la salle d'équipe pour déjeuner, pour se reposer un petit peu. Et ensuite il y avait notre accueil où mes collègues Mehdi et Yacoub aujourd'hui sont sur poste. Yacoub Ouata qui est moniteur éducateur au sein de la structure.
Bonjour.
Alors je suis Yacoub Ouata, je suis moniteur éducateur ici depuis une douzaine d'années.
Alors moniteur éducateur, ça veut dire quoi ?
En fait, ici, mon travail c'est dans le quotidien, gérer le quotidien avec les résidents et permettre aux résidents qui sont là dans l'urgence de les faire sortir du dispositif de l'urgence et de les emmener dans l'hébergement adapté à chaque particularité des usagers.
Ça veut dire qu'on les rencontre individuellement ?
On les rencontre individuellement, on travaille avec eux dans la sortie, dans l'administratif, dans le social, dans le médical. On travaille avec une grosse équipe en fait.
Quels sont les obstacles principaux à franchir ?
Les obstacles, il y a beaucoup d'obstacles parce que on a pas mal de personnes qui ont un vécu de rue assez important. On va dire au niveau santé, au niveau administratif, c'est assez compliqué de travailler tout ça et c'est des personnes qui ont besoin de temps. D'énormément de temps. Quelqu'un qui sort par exemple de 5 ans de rue, on va pas faire des miracles en un mois. Il faut autant de temps pour arriver à avancer avec lui.
Donc ça veut dire qu'il faut que vous soyez très patient. C'est un peu dans ce sens-là que vous disiez que la mission était un peu galvaudée tout à l'heure. J'étais surprise, mais voilà. Ouais.
Il faut
s'adapter.
Il faut s'adapter avec chacun. Il faut savoir aussi qu'on a des publics très différents. Ça va de la maladie psy, on a des personnes sans papiers, on a des personnes avec des papiers mais qui ont une vie assez compliquée et ça prend du temps de travailler avec eux. Dans le quotidien, on essaye, comme vous voyez, il y a à peu près 200 personnes ici, 200 résidents. Faire vivre toutes ces personnes ensemble, c'est un vrai challenge et le but, c'est que tout le monde ici vive dans le respect et la sécurité. Et nous, on essaye de gérer tout ça avec, comme je vous dis, une équipe extraordinaire pour essayer d'arriver à faire un bel amalgame.
Il me semble que j'ai cru comprendre qu'il y avait de plus en plus de gens qui avaient des problèmes psychologiques ici. Est-ce que justement la cohabitation est facile, entre guillemets, à gérer ou est-ce que c'est encore plus compliqué que ça ne l'était avant ?
C'est plus compliqué que ça ne l'était avant. Après, ce qu'il y a, c'est qu'ici, on a un pôle santé pour les personnes qui ont une médication. Donc c'est géré par le point santé. Donc si les personnes prennent leurs médicaments, ça se passe très bien. On essaye à ce que les personnes vivent vraiment en sécurité. Ça fait une petite communauté ici et qu'il y a un peu d'entraide, c'est ça. Et qu'il y a un peu d'entraide. C'est pas facile, mais on y arrive.
Autre poste clé, Brigitte, le suivi quotidien des passagers par l'assistante sociale.
Et aujourd'hui, c'est Marianne qui présente l'étendue de son domaine d'intervention.
Bonjour Marianne.
Bonjour, je suis assistante de service social ici au CGR depuis 2017 et du coup mes missions sont assez variées. La principale, c'est de faire de l'accompagnement social auprès des personnes.
Donc vous les recevez individuellement, quand ça se passe ?
Ouais, je les reçois individuellement, je peux aller aussi les voir dans leur espace privé qui sont la chambre ou alors leur logement une fois qu'ils sont sortis de l'établissement. Voilà, les formes d'accompagnement, c'est des interventions différentes, donc ça peut se faire au bureau, au domicile, de manière informelle, dans des accompagnements individuels, physiques, voilà.
Quels sont les différents points que vous abordez avec eux ?
Alors les points sont nombreux, les profils sont différents, les personnes ont des expériences de vie complètement différentes. Il y a des personnes qui ont eu une vie, on va dire, si on peut dire ça, parce que c'est pas quelque chose qu'on emploie beaucoup, mais assez classique et du coup qui ont déjà eu des logements et pour qui il faut rétablir un certain nombre de choses pour qu'ils puissent retrouver, entre guillemets, les choses qu'ils ont laissées auparavant. Il y a des personnes pour qui il y a tout un apprentissage à faire, des personnes qui sont aussi primo-arrivantes, qui ont une méconnaissance des administrations, mais en règle générale, c'est ce qui pose le plus de difficultés, c'est la méconnaissance des administrations, la difficulté à faire valoir ses droits et à aller frapper aux bonnes portes. D'autant qu'aujourd'hui, on est à l'ère du tout numérique, donc les personnes ne sont plus reçues, elles doivent tout faire par Internet, les plateformes sont saturées, donc c'est très très compliqué, c'est très compliqué pour ces personnes de faire valoir leurs droits et de savoir à quel droit elles peuvent prétendre.
Et donc là, c'est votre mission, vous, d'être vraiment l'intermédiaire entre les services et leurs problématiques personnel à chacun.
Exactement. Moi, je les informe, je les conseille. Je les accompagne déjà dans le rétablissement de leur situation administrative. Je le fais avec eux. Des fois, malheureusement, un peu plus pour eux. On essaie de les inclure au maximum dans tout pour qu'ils soient vraiment acteurs de leur changement et de leur vie. Après, voilà, c'est vrai qu'on est confronté à des choses très compliquées avec les administrations. Donc, il faut pouvoir porter un petit peu les situations pour qu'elles puissent avancer. Et du coup, en effet, ça passe par le rétablissement de leur situation administrative, le fait de pouvoir avoir une pièce d'identité, de pouvoir avoir des ressources, mais aussi de faire certaines démarches à leur rythme en fonction de leur situation, d'insertion professionnelle, d'insertion aussi dans la vie sociale et citoyenne, parce que c'est quelque chose d'important, et de reprise d'autonomie. Donc on fait un gros travail d'évaluation des capacités des personnes, en fait, hein, parce que malheureusement, il ne suffit pas de trouver un toit, il faut aussi que les personnes puissent avoir une capacité d'habiter quelque part et que ce soit surtout en lien avec leur projet de vie et ce qu'ils attendent en fait pour la suite. Donc c'est aussi pour certains de redéclencher des envies parce qu'il n'y en a pas forcément.
Vous pensez qu'ils ont toujours des projets de vie, même ici, ou c'est un peu aussi à vous et à l'équipe qui est avec vous de les booster pour qu'ils arrivent à avoir un objectif ?
Pour certains, il y a des projets et il y a des envies qui sont là et pour qui il n'y a pas besoin d'être déclencheur. Et pour d'autres où, pour le coup, c'est plus compliqué. C'est des personnes qui me confient souvent être complètement vides et ne plus avoir d'intérêt pour les choses. Donc, c'est un peu compliqué des fois de se recentrer sur des choses purement administratives quand le principal n'est pas présent. Donc, on passe beaucoup par des entretiens psychosociaux. On oriente aussi vers des professionnels de santé qui sont compétents. Après, voilà, c'est des personnes qui ont besoin de beaucoup de temps pour être accompagnées, pour que les choses soit échangé pour faire émerger aussi des demandes. Donc c'est tout un travail d'accompagnement qui nécessite beaucoup de rencontres. Et malheureusement, c'est vrai qu'avec la quantité de personnes qu'on reçoit, c'est compliqué d'être toujours là-dedans. Mais du coup, on essaye de le faire au maximum.
Merci Marianne, on va essayer de travailler alors.
Merci à vous.
Merci, bonne fin de journée.
Merci.
Quand devant 15 personnes, j'y croyais pas du tout, et que mon téléphone ne sonnait pas beaucoup, quand aucun projecteur ne se braquait sur moi, quand je guettais le facteur au tout début du mois, quand j'étais sur la paille à passer le chapeau, quand je prenais le train corail comme on prend un radeau, quand le café était froid sur les aires d'autoroute, quand glissait sous mes doigts des kilomètres de doute. était là, elle était déjà là. Bien avant tout ça, elle était là, elle était là, elle était déjà là. Bien avant tout ça, elle était là.
Bah ici, comment ça se passe? Il y a la télé, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui mangent pas bien, il y a des gens qui dorment pas bien, il y a des gens, voilà, ça dépend de la situation.
Vous aimez bien être dans votre coin tout seul ou vous aimez partager avec les autres?
Ça dépend de la journée, des fois j'ai le moral, des fois j'ai pas le moral. Donc on s'ennuie, la même chose toute la journée, la même chose. S'il y en a des rendez-vous, il y a quelque chose à faire, on n'ennuie pas.
Les conditions dans cette foyer, elles sont bonnes, nous ne sommes pas toutes seules, il y en a personne qui travaille, nous aide. Il y en a aussi personne qui habite avec nous. Nous sommes maintenant presque family.
Il y a des gens, 5 ans ici. Moi, je connais des gens ici depuis 2009 qui habitent ici.
Quand je parle à
eux, ils disent toujours la même histoire. Le dossier, ça marche pas, ça avance pas. Toujours un problème administratif, toujours problème social. Et voilà, depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, il est ici. Ça veut dire quoi? Voilà, ça veut dire long.
Donc vous avez l'impression quand même d'être accompagné ici, d'être entre de bonnes mains, entre guillemets.
Aujourd'hui, ça va. Il y a de accompagnement, mais ça dépend du dossier. Si le dossier est clair pour l'administratif, il y a des accompagnements. Si le dossier manque des choses à cause des administratifs même, il n'y a pas d'avance. Parce que toujours l'administratif qui décide. C'est pas l'être humain, c'est pas nous, ça veut dire. Et j'espère que ça avance un jour. Hein. Pour moi-même, ça va. Il y a trop de difficultés, mais ça va, ça avance. J'espère. Mais il y a trop de difficultés.
J'ai 54 ans. Je suis tunisien, j'ai pas d'espoir pour l'instant, ni santé, ni vie sociale. Donc grâce à la foyer, nous on dort, on mange.
Alors pourquoi il n'y a pas d'espoir? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui?
J'ai pas autorisé de travailler, j'ai la carte prioritaire, j'ai la hache, je fais la demande, j'ai 80% d'invalidité. Je suis diplômé, j'ai expérience d'informatique. On mange, on dort, on mange, c'est le même routine. Pour le foyer, il est bien. Bon, il est bien les services, il est bien les gens qui travaillent ici. Il est propre, le foyer.
Le Café du Monde Nouveau, le podcast du foyer Notre-Dame des Sans-Abris.
On continue notre passage ici au foyer Notre-Dame des Sans-Abris, au centre Gabriel Rosset avec Melvin. Pourquoi les gens restent longtemps ici, dans ce centre Gabriel Rosset?
Derrière le terme que j'ai utilisé tout à l'heure, d'accueil inconditionnel qui représente aujourd'hui 166 places au sein de la structure, il y a surtout la question de la problématique administrative et du droit au séjour. En fait, ces places-là, quand on parle d'accueil inconditionnel, effectivement, ça veut dire que la maison de la veille sociale, qui est l'organisme qui oriente les personnes, oriente ces personnes, ces profils de personnes qui sont démunies d'un droit au séjour en France ou qui sont en train de réaliser des démarches pour demander un droit au séjour en France, et ces personnes-là sont orientées spécifiquement sur ce type de place-là. Donc effectivement, c'est cette problématique administrative qui est très très prenante dans leur tête et dans leur vie, fait que le temps que tout ça soit traité, ça peut prendre des années. On parle vraiment en années. Les délais de traitement sont de plus en plus longs, et quand en plus la première décision n'est pas une décision favorable et que les personnes essayent néanmoins de faire appel de cette décision et de faire valoir ce droit-là, on passe sur un volet qui est cette fois-ci juridique, enfin judiciaire. Donc ça se passe au niveau du tribunal administratif, et du coup on est sur un calendrier qui est celui des tribunaux. Donc c'est pour ça aussi que ça prend beaucoup beaucoup de temps. C'est vraiment une difficulté pour les gens, parce que c'est une période pour laquelle ils ont des droits malgré tout, mais ces droits sont quand même très restreints du fait que le droit au séjour, lui, n'est pas encore validé. C'est une période qu'ils vivent souvent très très mal, parce que ils ont envie d'avancer, ils ont envie de travailler, ils ont envie de séjourner, de construire leur vie, et aussi de trouver une solution de logement ou d'hébergement autre que celle qui leur est proposée. Mais n'ayant pas ce droit au séjour instauré, ça les freine par rapport à ces aspects-là. Donc effectivement, c'est une période pour lequel l'accompagnement social, il est aussi très psychologique, parce qu'il y a un soutien moral, des échéances, des dates, qui souvent sont très anxiogènes pour les gens. Donc il y a toute une préparation, tout un accompagnement psychosocial à proposer sur ces périodes-là, en plus des difficultés qui peuvent être autres que la problématique administrative. Mais des fois, elle conditionne de la souffrance psychique, des fois, elle accentue d'autres difficultés sociales parce que les personnes n'arrivent pas à avoir de la projection dans leur vie. Bien évidemment, leur volonté, c'est souvent de ne pas retourner d'où elles viennent. Derrière, elles se posent la question de pourquoi tout ce chemin pour qu'à la fin, elles soient en difficulté ici aussi longtemps.
Dans le foyer Notre-Dame des Sans-Abris, il y a l'accueil, l'hébergement, la prise en charge, mais aussi des services généraux en coulisses indispensables au bon fonctionnement et au bien-vivre de tout l'établissement.
Alors, Melvin, on rentre là dans un lieu qui est un peu particulier.
Oui, c'est la buanderie. Donc, effectivement, on a une buanderie à la fois pour notre structure, mais aussi qui gère tout ce qui va être le linge de lit d'autres structures, dont la Chardonnière. Ça représente, je crois, 400 draps, 400 couvertures, enfin, par jour. Donc, c'est quand même un lieu qui est très, très important. Effectivement, il y a un personnel spécifique dédié à ça, qui n'est pas le personnel directement du CGR. Néanmoins, ils sont dans nos locaux. C'est un petit peu comme le service nettoyage qui est aussi dans nos locaux.
Alors bonjour Florian.
Enchanté. Alors je suis Florian Maillard, je suis encadrant technique sur le nettoyage. Je suis encadrant technique d'insertion. Donc ici on encadre et on accompagne à peu près entre 15 et 18 salariés en insertion. Donc le support d'activité c'est le foyer d'hébergement. Donc nous le but c'est de maintenir l'hygiène et donner les meilleures conditions sanitaires pour tout le monde, hein, pour les passagers. En fait on travaille du lundi au dimanche. Donc du coup on a une activité principalement de 7h jusqu'à 13h pour tout ce qui est nettoyage, voilà.
Alors c'est une tâche qui est importante, il y a 6 machines, c'est ça ?
Ici, il y a 6 machines. Alors, il y a 3 machines à laver, il y a 3 sèches-linges. Il y a en capacité, c'est-à-dire qu'ils gèrent aujourd'hui le CGR en termes de linge et puis d'autres structures à l'extérieur. Voilà. Donc, ça fait beaucoup de linge par jour, ça fait beaucoup de salariés et voilà, il y a beaucoup de draps, comme vous pouvez le voir. Et il y a différents chantiers d'insertion. Donc, nous, on est sur le nettoyage. Il y a de la buanderie, il y a du tri. Enfin, le foyer, ils ont différents chantiers d'insertion. Et nous, sur le nettoyage, ils ont un agrément de 24 mois. Donc quand ils viennent chez nous, on les forme et après on les accompagne sur leur projet professionnel. Donc ça peut être soit dans le nettoyage puisque nous on a la possibilité, la capacité aussi de les former avec tout l'outil qui sont les nôtres, ou sur d'autres projets aussi, c'est tout intéressant. S'ils ont un projet, ils arrivent à un projet, nous on les accompagne au bout des 24 mois ou avant s'ils sont prêts à retrouver le milieu ordinaire. Donc on a la possibilité d'avoir des formations à l'extérieur et aussi des immersions. Et le but c'est qu'à la fin ils arrivent sur un contrat, quoi.
Moi, je suis Wafa.
Expliquez-nous votre parcours Wafa ici au CGR.
Déjà, c'est un chantier d'insertion, une aide pour reprendre le travail. Ça fait quand même plus qu'un an que je ne travaille pas. Et là, c'est quand même ça change pour commencer de travailler, de prendre l'habitude de travail et tout. En même temps, on cherche de travail. Et comme on chantier d'insertion, il nous aide pour trouver notre travail et pour faire des formations, des stages, proposer de travail aussi. Je trouve que c'est super, ouais. Et on travaille en équipe, ça se passe très bien.
Le café du monde nouveau.
La première vocation du centre Gabriel Rosset, c'est bien l'accueil et l'hébergement. Car ce sont 200 passagers qui logent ici tous les soirs, en chambre individuelle ou en cabine. Et c'est plein tous les soirs, comme l'expliquent Hassen, Melville et Mohamed, maîtres de maison.
Alors moi c'est Hassen, agent d'accueil au foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je connais l'association. Donc en fait mon rôle c'est vraiment d'abord d'accueillir les personnes qui sont orientées ou par la MVS ou dans certains cas par le 115 via la plateforme 115. Et donc du coup nous on installe les personnes, on regarde dans quel état elles sont quand elles arrivent, s'il y a des signalements à faire au point de vue médical, au point de vue psychique, enfin on fait une petite checklist histoire d'être sûr que les personnes puissent profiter de leur séjour dans de meilleures conditions. Souvent c'est des personnes qui sont restées très longtemps dans la rue, donc du coup elles sont très fatiguées, très se renferment sur elles-mêmes, elles sont très fermées au point de vue des informations. Et nous, notre travail c'est aussi de glaner les petites informations qu'on aura à gauche, à droite pour pouvoir se faire une idée de l'état de la personne.
C'est en quelque sorte la porte d'entrée.
Voilà, exactement. Enfin on leur ouvre là, en gros là, la, la grande porte d'entrée, mais on s'assure quand même que ces personnes-là, elles aient au moins les capacités à être hébergées au sein de notre structure, parce qu'on reçoit énormément de personnes, on a beaucoup de monde. J'irais même que quand ils arrivent, il leur manque ce petit côté-là d'être seul, d'être autonome, de se débrouiller par soi-même. Donc voilà, et nous, c'est à nous en fait de les aider à intégrer le collectif, parce qu'on parle de collectif ici. Les personnes vivent ensemble, elles ont pas mal d'origines différentes et beaucoup de choses différentes entre elles. Et du coup, on essaye de faire un cadre de vie commun.
Ça veut dire que vous ne refusez jamais la porte, l'ouverture de la porte à qui que ce soit?
On fait de l'accueil inconditionnel. Comme le terme l'indique, c'est l'une des devises du foyer, voilà, accueillir, héberger et insérer.
Alors Melvin, là on rentre vraiment dans la partie
hébergement,
la partie chambre ou cabine d'ailleurs.
Tout à fait, donc effectivement on a 166 places pour des personnes qui sont orientées sur des places d'accueil inconditionnel. Parmi ces places-là, certaines d'entre elles sont en chambre et d'autres en cabine. Les personnes en chambre sont deux par chambre, avec sur le palier les sanitaires, toilettes, douches. Les personnes en chambre qui sont sur ces places d'accueil inconditionnel, le choix a été fait de pouvoir proposer aux plus vulnérables, souvent pour des problématiques de santé, un accueil sur une chambre au lieu d'une cabine. Le confort y est différent qu'en cabine, certes, mais il était important de prendre en compte cette difficulté médicale pour que les personnes, si leur état se dégrade, puissent être dans des conditions d'accueil un petit peu spécifiques et propres aux besoins des gens. C'est Melvin. Est-ce que vous me permettez de rentrer ? Donc effectivement, c'est deux personnes par chambre, avec certes le minimum, mais un lit, des bureaux, des placards. Effectivement, les personnes, contrairement aux cabines où elles doivent sortir des cabines pour des raisons de nettoyage, sur ces chambres-là, elles n'ont pas à sortir la journée, entre 8h et 14h, parce que la problématique de santé est bien prise en compte, ce qui leur permet vraiment de pouvoir se reposer de façon plus importante quand elles en ont besoin.
Alors avec un nombre important de chambres comme ça, comment ça se passe l'organisation au quotidien, le ménage par exemple ?
Majoritairement sur les places d'accueil inconditionnel, les gens vivent en cabine. Donc effectivement les cabines, on a 43 cabines par palier. Les personnes doivent quitter les cabines le matin et peuvent la réintégrer l'après-midi à partir de 14h, donc le matin à 8h, et elles peuvent la réintégrer à 14h, parce qu'il y a tous les jours une opération ménage qui se fait sur toutes les cabines, ainsi que une fois par semaine sur tout ce qui peut être désinsectisation, au cas où, voilà, on prend des précautions par rapport à tout ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent avec des états d'hygiène différents. Il est très important, voilà, pour le mieux vivre ensemble, que les choses soient nettoyées tous les jours.
Et dans les chambres ?
Alors dans les chambres, ce qui se passe, c'est que les personnes ont aussi une prestation nettoyage. Par contre, c'est aussi intéressant de pouvoir leur laisser, alors c'est pas tous les jours, mais leur laisser certains jours pour que eux-mêmes fassent le nettoyage de leur chambre. Ça nous permet de mesurer la capacité d'habiter des personnes, de voir un petit peu si elles sont capables de tenir une chambre. Ça a été réfléchi avec les passagers, car nous avons ce qu'on appelle les conseils des usagers dans le cadre de la loi 2002, il y a un devoir d'intégrer les personnes à certaines réflexions concernant leur lieu de vie, et donc de façon régulière nous organisons des réunions avec eux sur lesquelles nous évoquons ce genre de problématiques, et on essaye d'intégrer pleinement les personnes à ces réflexions-là et de prendre en compte ce qu'ils peuvent nous remonter, parce que sur l'étage où il y a des chambres, il y a des personnes qui sont souvent avec des problématiques de santé fatiguées. Elles n'ont pas l'obligation de sortir la journée pour pouvoir faire cette phase de nettoyage. Donc on a essayé de réfléchir néanmoins à comment maintenir un lieu propre, d'autant que les personnes avec ces problématiques de santé, la question de l'hygiène est d'autant plus importante. Donc on a essayé d'intégrer les passagers à ces réflexions-là.
On peut visiter les cabines,
hein ? Bien sûr. Alors du coup, nous sommes dans une cabine. On retrouve à la fois des cabines doubles, mais aussi des cabines individuelles. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment un lieu de couche. Hein. Les personnes n'ont pas obligatoirement la place pour pouvoir installer des armoires, tout ça. Tout ça, c'est plutôt au rez-de-chaussée, où chaque personne a un casier individuel pour pouvoir mettre leurs affaires. Et là, c'est vraiment le lieu de couche où elles viennent se reposer et être hébergés la nuit.
Le Café du Monde Nouveau, le podcast du foyer Notre-Dame des Sans-Abris.
Donc Mohamed Benasser, donc je suis maître de maison là au sein de CGR. Donc on est trois, donc il y a moi, Claire et Riyad.
Et c'est quoi exactement un maître de maison ?
Moi, je résume toute notre mission. Donc, c'est le bien-être de tout le monde, des résidents qu'on a ici au niveau du CGR. Donc là, on s'occupe de tout ce qui est technique, intendance et la relation extérieure avec nos partenaires, les sociétés, par exemple, la plomberie, tout ce qui est technique.
Tout ce qui pourrait faire qu'ils vivraient mal ici parce qu'il y a un petit truc qui...
Exactement. Il y a un chauffage qui ne marche pas dans cette période. Donc, on fait tout le nécessaire pour faire intervenir l'entreprise pour la réparation. On a une partie d'accompagnement social parce que quand la personne elle arrive ici, donc il y a tout un logistique à préparer. Il y a le casier, il y a la cabine, il y a la chambre, le linge de lit, etc. etc. Il y a aussi la gestion des clés de tout l'établissement. Il y a des milliers de clés, donc c'est à nous de gérer.
Il y a des clés dans la chambre ?
Il y a quelques chambres, la personne elle peut fermer sa chambre et tout ça. Ouais.
Donc c'est un peu la différence entre les cabines et les chambres, si j'ai bien compris.
Voilà, c'est ça. Oui, la cabine, elle reste ouverte. Par contre, la chambre, donc...
Ça ne crée pas de problème, justement, entre les passagers?
Non. Donc, c'est pas le même... donc, ce qu'on appelle le CHU, le CCRS, là. Donc, on a deux étages pour le CCRS. Et donc, c'est là où il y a le... Enfin, les personnes, ils sont dans des chambres qui se fermaient.
J'ai cru comprendre que vous étiez une des premières personnes, en fait, qui recevait les gens quand ils poussaient la porte ici. Donc, vous êtes une des... Après l'agent d'accueil, vous êtes la personne qui les rencontre les premiers.
Tout à fait, oui. Tout à fait.
Et vous les trouvez heureux d'arriver ici ou comment ça se passe ?
Nous, c'est vrai, donc le bâtiment, il est énorme, la population, elle est énorme, donc il y en a plus de 200 personnes. Mais on arrive toujours à satisfaire ce qu'on peut, le public et tout ça. Donc avec les moyens et les outils qu'on a. Par exemple, on prend l'exemple des casiers, là. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a 128 casiers pour 128 personnes qui sont dans les cabines. Donc il y a un casier pour chaque personne. C'est un plus, ouais. Oui.
Parce pour la sécurité, pour l'intimité.
Tout à fait. Ils sont autonomes, ils récupèrent, ils ouvrent, voilà.
Oui.
Donc les casiers, ça se ferme, mais ils sont autonomes, quoi. Par contre, pour les gens qui sont dans des chambres qui se ferment et tout ça, donc ils ont une armoire dans chaque chambre qui se ferme aussi.
Ce centre Gabriel Rosset, Brigitte, c'est vraiment un lieu de vie pour ses résidents. Comme une grande maison, il est composé de plusieurs espaces et le plus étonnant peut-être, c'est le jardin.
Alors Melvin, ici on est donc dans la grande salle du CGR, mais il y a aussi un extérieur, un petit jardin qui est fort sympathique.
On va du coup aller à l'extérieur, on a la chance de pouvoir en plein centre-ville avoir un extérieur, ce qui effectivement est un luxe sur une structure qui est située au centre-ville. Le fait d'être à Lyon comme ça, ça facilite de nombreuses choses en termes de démarche. Avoir un extérieur aussi, ça permet aux gens de s'en sortir de la structure, pouvoir en bénéficier.
On peut le décrire cet extérieur ?
Bien sûr. Il y a une table de ping-pong, on a des bancs, des chaises, on a essayé de faire des trucs un petit peu sympathiques qui peuvent détendre une ambiance un petit peu zen. On a aussi une forme de gardiennage de vélo parce que les personnes, pour un grand nombre d'entre elles, ne sont pas véhiculées, et aussi dans l'idée un peu de promouvoir toute la dimension du déplacement plus écologique. C'est aussi un accès pour les personnes en fauteuil parce qu'on a une rambarde qui permet effectivement, quand on a du passage par exemple de pompiers, de pouvoir avec des brancards mieux circuler.
Alors c'est quoi, c'est un confort ici ?
C'est pas un confort, on est sur le cyberespace, donc c'est un lieu pour les passagers du foyer qui leur permet l'accès à tout ce qui est les outils numériques, parce qu'effectivement il y a de plus en plus de choses aujourd'hui qui nécessitent un accès à Internet, les questions de dématérialisation aussi de certaines démarches. Donc à la fois ça permet aux personnes d'avoir un espace pour eux, donc c'est bien évidemment un espace qui est aussi balisé, surveillé, hein, pour pas que tout permettre à chacun de faire n'importe quoi à travers un ordinateur. Néanmoins, il était important de pouvoir proposer, compte tenu tout ce qu'on vient de dire, la dématérialisation, la fracture numérique, surtout sur les personnes les plus loin dans l'insertion socio-professionnelle, un lieu leur permettant de reprendre leurs outils pour pouvoir faire des CV, des lettres de motivation, pour pouvoir s'approprier tout ce qui est l'informatique par la suite. C'est un lieu qui, au fur et à mesure, va s'améliorer, mais pour lequel on a une vraie volonté de proposer à nos passagers ces aspects-là. C'est aussi un lieu dans lequel il peut y avoir des animations qui sont faites autour de ces thématiques-là.
Il y a des formateurs, il y a quelque chose que...
Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de formateur spécifiquement. L'idée, c'est vraiment plutôt de proposer ce service-là, de pouvoir accompagner les passagers là-dessus, parce que les professionnels ont leur poste de travail avec un ordinateur, mais c'était important d'avoir un lieu dédié pour les gens, et l'accompagnement se fait. Donc on n'a pas eu l'occasion de rencontrer Bertrand, qui est animateur chez nous, mais qui peut accompagner les personnes aussi sur tous ces lieux-là, où l'animation prend tout pleinement sa place de façon générale, et ça fait partie des axes de travail qui sont développés.
Autre lieu incontournable, le réfectoire.
Alors Melvin, ici on est dans la salle de restauration, au réfectoire, c'est ça ?
Oui, tout à fait, nous sommes au réfectoire. Donc en fait, le réfectoire, c'est le lieu dans lequel les personnes viennent se restaurer. Cette restauration fait partie de la prise en charge qui est proposée. Il est ouvert le matin, le midi et le soir. Bien évidemment, il n'y a aucune obligation à venir déjeuner, dîner sur ce lieu-là. Néanmoins, il y a des personnes qui n'ont pas de ressources, il y a une absence de ressources totale, donc il est important dans le cadre de besoins primaires qu'ils puissent avoir une cuisine de qualité. Donc effectivement, on a des cuisiniers qui sont là pour pouvoir proposer ça. Cette salle est relativement grande parce qu'elle doit quand même permettre l'accueil d'un certain nombre de personnes. C'est aussi un lieu convivial, un lieu dans lequel les bénévoles, qui pour certains participent à la distribution des repas, à une soupe tous les soirs, ça permet aussi de partager des moments avec eux autour d'un repas. Et la cuisine reste toujours un moment de convivialité, les repas, donc c'est un lieu très important par rapport à tout ça.
Et c'est l'équipe du prestataire 1001 Repas qui est en charge de tout.
Je m'appelle Julien et je travaille pour la société 1001 Repas au foyer Notre-Dame des Sans-Abris.
Alors 1001 Repas qui sert donc ici le foyer, comment ça se passe en cuisine ?
Alors moi je ne suis pas en cuisine principalement, je fais surtout la vaisselle et le service et les préparations l'après-midi. Donc après c'est le cuisinier le matin qui prépare pour 70-80 repas à midi et soir. Donc ils font un féculent, légumes, une viande et un poisson.
Et la difficulté c'est qu'on ne sait pas vraiment qui vient en fait, hein ?
On n'a pas un nombre prédéfini parce que au début quand ils ont pris le foyer il y avait une centaine de personnes, mais avec le Covid ça a réduit à 70 à peu près en moyenne, donc ça fait que la fréquentation a beaucoup baissé. Oui.
D'où viennent les repas que vous servez ?
Les repas qu'on sert, donc la plupart, donc c'est des produits frais qui viennent, qui sont donnés par la banque alimentaire. Donc ça peut être aussi bien du légume, des produits laitiers, produits secs, viande, poisson de temps en temps. Et après des entrées, des fois toutes prêtes, parce que c'est des dons qu'ils ont eux de grandes surfaces ou autres.
Ouais. Bien se nourrir, c'est une chose, mais il faut également, et c'est aussi l'une des missions du centre, s'occuper du volet médical de chaque passager.
Voilà, on toque à la porte de l'infirmerie.
Jamila, je suis aide médico-psychologique au point santé du centre Gabriel Rosset depuis le 1er janvier 2020.
Et moi, je suis Emrys, infirmier au CGR depuis 2 mois pour une période de courte durée.
Quelle est votre mission alors au CGR ?
Les rendez-vous médicaux, les accompagnements pour les personnes qui ne sont pas en capacité d'y aller seules, donner les traitements matin et soir quand les infirmiers ne sont pas là.
On fait de la réhabilitation à l'hygiène, donc pour que les personnes qui ont passé beaucoup de temps à la rue, quand ils reviennent, on leur offre la possibilité de prendre soin d'eux. On leur met à disposition des locaux dans lesquels ils peuvent prendre soin de leur hygiène et on les accompagne avec des vérifications. On leur donne aussi des vêtements et la possibilité d'avoir une vie saine en fait.
En général, ça se passe bien là, cette période de, comme vous dites, de réacclimatation à l'hygiène. Ça doit pas être évident de rentrer dans l'intimité des gens comme ça qui sont dans la rue tout le temps.
Effectivement, oui, c'est pas toujours simple, surtout qu'il y en a depuis des années, voire même plus, qui n'ont pas eu d'accès à l'hygiène. Mais après, c'est un travail qui se fait pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Mais on arrive à des petites victoires, ne serait-ce que la personne, elle se change, ou elle arrive à se passer un coup de gant sur le corps. On arrive quand même à des belles victoires.
Ça doit être très satisfaisant et ça vous donne envie de continuer. Ouais. Parce que ça, c'est un problème que vous rencontrez beaucoup, j'imagine.
Oui. Surtout quand ils sont en état d'alcoolisation, ils peuvent pas, du coup...
ils ont plus la réalité des choses par rapport à...
Et puis, du coup, ils sont pas du tout en capacité de s'accompagner eux-mêmes. Du coup, ils sont dans le refus qu'on les aide, ils sont dans le refus de prendre soin d'eux. Et du coup, pour l'estime de soi, c'est pas top, quoi.
C'est la majorité des gens qui sont ici qui ont besoin de soins de santé.
Donc, sur les 200 à peu près personnes qui sont accueillies au CGR, on a, je dirais, une centaine de personnes qui sont rattachées au point santé avec des suivis particuliers pour les traitements. C'est à peu près une trentaine de personnes à qui on distribue les médicaments. Et ensuite, on a une autre mission, on fait de l'addictologie, notamment à l'alcool, avec la co-gestion alcool. Donc, c'est mis en place avec un partenariat avec l'association ARIA, qui a mis ça en place, et c'est de la distribution d'alcool pour rattacher les gens à notre équipe, en fait, et créer du lien avec ces personnes qui sont en errance, la plupart du temps.
Pour limiter aussi les risques d'alcoolisation sur la voie publique. Ça a été mis en place pendant le premier confinement, où les messieurs, ils étaient en besoin de consommer leur alcool, donc ils sortaient, s'alcoolisaient, et puis il y avait beaucoup d'accidents sur la voie publique. Et du coup, depuis qu'il y a eu la co-gestion, on s'est aperçu que du coup, il y avait beaucoup moins de personnes qui s'alcoolisaient à l'extérieur. On a beaucoup moins d'accidents, on a beaucoup plus de liens avec eux, c'est beaucoup moins tabou, on arrive plus à en parler, et du coup, il y a même eu ils arrivent plus à accrocher au suivi avec les addictologues qu'auparavant.
Je m'appelle Prilantoni, je suis infirmier libéral sur le secteur du 7e arrondissement. On a notre cabinet qui est rue Chevrol. J'ai repris cette activité, l'activité libérale, il y a un peu plus d'un an maintenant, avec laquelle je travaille avec mon collègue. À l'époque où j'ai repris, où j'étais remplaçant, on travaillait déjà sur la structure du CGR.
Alors, quand vous dites que vous travaillez, c'est-à-dire, comment ça se passe? Vous intervenez régulièrement?
Nous, on intervient matin, midi et soir. On fait 3 passages par jour. On suit des patients qui sont diabétiques. On a des pansements aussi pour les soulager. Les infirmiers là vont plus faire après eux un travail social de papier, de rendez-vous. On communique beaucoup là-dessus. Et les patients qui ont des droits ouverts sécurité sociale, c'est nous qui les prenons en charge. Je passe le matin entre 6h30 et 7h. J'ai 3 diabétiques. On a une prothèse oculaire qu'on retire, qu'on nettoie, quelques gouttes dans les yeux. Le midi, on refait du coup que les diabétiques pour leur suivi. Et l'après-midi, on consacre plus de temps pour ce qui est les soins plus lourds, parce qu'on a un peu plus de temps. Les pansements, tout ce qui est suivi de chirurgie, injection d'anticoagulants, prise de tension, administration de traitement. Et tous les jeudis, du coup, chaque semaine, on fait les piluliers de tous les résidents. Ça nous permet aussi à nous de les connaître un petit peu à travers leur traitement, de les découvrir et d'avoir un autre lien que simplement de faire des soins. Pour nous aussi qui travaillons tout seuls, on n'a pas de collègues de travail. Du coup, travailler sur la structure du CR, c'est aussi intéressant parce qu'on rencontre d'autres infirmiers comme nous, on peut échanger sur les patients, sur des projets de soins. C'est le seul endroit où on a du coup quelques collègues du médical, sinon on est vraiment tout seul chez les gens.
Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Je suis retapé, remis sur pied, droit sur mes guiboles, ressuscité. Tout ce qui tombe autour de moi, c'est l'hécatombe, c'est Guernica. Tout ce qui tombe, tombe à tour de bras, et moi je suis toujours là, toujours vivant, rassurez-vous.
Tout ce que je souhaiterais, c'est voir une télé chacun. Parce que c'est un peu compliqué de dormir sans pouvoir s'évader un peu de tout ça. Mais j'aime beaucoup ce foyer, c'est un foyer qui m'a beaucoup soutenu dans mes moments difficiles.
Vous y êtes depuis longtemps dans ce foyer ?
Oui, je suis depuis un moment quand même. J'ai commencé au 115 à l'époque. Alors, c'est pour moi, sans eux, je crois que je suis à la rue. Hein. Et heureusement, il y a ce monsieur, Marvin, qui nous aide, Marilyn. Et voilà, ils nous soutiennent. Quoi. Mais voilà, les obstacles, il faut les sauter. Hein.
Et votre objectif, c'est de faire quoi quand vous serez parti?
Moi, c'est retrouver mon travail comme maçon et vivre ma vie, ma fille.
C'est ça, maçon, vous avez dit.
Ma fille, retrouver ma fille plus souvent et partager des bons moments avec elle. Voilà. Et je respecte tout le monde ici, on s'aime tout le monde et on passe pour la même chose tout le monde. Et voilà. Et je vais jamais oublier ça. Ça va rester dans mon cœur.
Le foyer vous apporte de l'espoir.
Ouais, parfois ouais. Parce que parfois on se dit qu'on devient un peu plus souvent une famille, on devient un peu plus souvent amis aussi. On comprend un peu plus les gens, on se connaît mieux et ça peut aller mieux.
Dans une structure comme le centre Gabriel Rosset, certains des passagers nécessitent une attention particulière.
Et c'est au PAR, où nous avons déjà rencontré Ginette tout à l'heure, que Saïd, éducateur, les reçoit. Le PAR, c'est le pôle d'accompagnement renforcé.
Au début, on discute de manière non formel. On est sur des échanges autour d'un café, autour d'une cigarette, où on essaye d'amener la personne à nous expliquer sa situation, son statut, voir où est-ce qu'elle en est. Et on travaille petit à petit à rentrer dans le bureau, petit à petit à faire des démarches, en sachant que faire une démarche administrative, c'est quelque chose qui n'est pas une priorité. Refaire une carte d'identité prend souvent 4-5 rendez-vous. J'ai à dire à une personne qu'il faut payer 25 euros pour acheter le timbre fiscal pour pouvoir refaire sa carte d'identité. Ça paraît une contrainte énorme et la personne préfère bien souvent, sur les peu de ressources qu'elle a ou d'argent qu'elle arrive à obtenir de la manche, aller boire, aller subvenir à d'autres besoins, acheter des cigarettes, que d'investir 25 euros pour refaire une carte d'identité. Alors c'est un très long cheminement parce qu'on a des personnes pour qui la déconstruction est telle, les problématiques sont telles qu'il faut vraiment du temps avant d'arriver à créer ce petit lien qui permette d'enclencher quelque chose, en sachant que vous avez aussi, c'est pas parce qu'une personne a une situation administrative à jour qu'elle est en capacité de pouvoir vivre quelque part. Et ça, c'est un travail de fond, c'est un travail à long terme. Il y a effectivement l'autonomie, mais il y a aussi la capacité de pouvoir vivre avec les autres, la capacité de pouvoir respecter des règles collectives, des règles d'un établissement. Et beaucoup de personnes, quand elles ont vécu dans la rue, elles ont perdu ces repères-là, elles ont ce sentiment de liberté, une envie de liberté, telle que vivre dans un collectif, même une maison de retraite, c'est pas supportable. Et c'est pas un projet. Donc voilà, on y travaille au long cours.
En matière de résultats, vous arrivez à mesurer? Alors, ou ça vous arrive d'être découragé?
Alors je suis jamais découragé parce que venant ici, on se dit que on part de tellement loin que quand on arrive à accompagner les personnes, quelle que soit l'issue, quand on a réussi à leur permettre de se poser dans un lieu, à être avec d'autres personnes, à aller mieux ou à se sentir mieux, c'est déjà une réussite en soi. Alors si on est sur des objectifs de sortie, c'est encore plus compliqué, mais il y en a, et celles-ci, eh ben, elles vous mettent du baume au cœur, elles vous permettent de vous dire voilà, que chacun, à un moment donné, peut arriver quelque part. Et l'objectif, c'est de se dire que toutes les personnes qui sont accueillies ici, quelle que soit la temporalité qu'il y aura, quelles que soient les évolutions, les échecs, on reprend. J'ai les personnes qu'on accompagne ici, c'est pas linéaire. Les personnes accrochent, décrochent. Ce qu'on regarde sur la durée, c'est que ce qu'on a construit évolue positivement au fur et à mesure. Donc effectivement, certaines rentrent en établissement. Les dernières 5 personnes ont pu rentrer en EHPAD. Ça a été une année prolifique, mais c'était aussi lié au contexte sanitaire. Le fait que les établissements avaient plus de place a facilité des entrées de personnes plus abîmées. Les établissements étaient moins regardants dans la société. Les personnes qui ont été abîmées, les personnes qui n'ont pas le même parcours que les autres, les personnes qui ne réagissent pas comme les autres, c'est difficile finalement de les intégrer aux autres. Quand on arrive sur des établissements de droit commun, finalement il y a très peu de place pour les personnes qui n'ont pas des parcours comme les autres.
On va terminer cette émission par une petite note historique en visitant successivement 3 espaces emblématiques: l'espace Gabriel Rosset, la salle polyvalente et jusqu'à la chambre de Gabriel Rosset lui-même.
Le café du Monde Nouveau.
Alors après avoir visité le réfectoire, on va aller du côté d'un espace un peu particulier, l'espace Gabriel Rosset, c'est quoi exactement?
Alors l'espace Gabriel Rosset, c'est vraiment un lieu historique, un lieu béni par le cardinal Barbarin en 2004. C'est le lieu où on retrouve un certain nombre d'objets du fondateur du centre Gabriel Rosset.
Alors quoi par exemple?
Alors là, face à vous, vous pouvez voir un petit peu des effets personnels qu'avait M. Gabriel Rosset, des décorations aussi. C'est un espace aussi que communément on appelle nous l'oratoire, mais c'est vraiment le nom, c'est Espace Gabriel Rosset. Depuis maintenant 71 ans, effectivement, ce lieu a une importance particulière parce que c'est le lieu dans lequel beaucoup de choses ont dû se penser, ont dû se faire et se sont faites. Donc on y tient particulièrement. On tient surtout à faire en sorte que tous les objets qui puissent y être soient mis en avant, car rien n'aurait pu avoir lieu sans ce monsieur-là.
En plus de sa chambre.
Voilà, ça fait partie des petites particularités de la structure.
Qui peut venir ici alors, et à quel moment ?
Ce lieu est ouvert à tous et elle accueille les bénévoles de l'association, certains passagers et nous-mêmes, les professionnels. On peut utiliser cette salle. Voilà.
Et à côté de l'oratoire, donc, on a également une autre salle ?
Tout à fait, la salle polyvalente. Donc là, on est sur le premier niveau, le premier étage du Centre Gabriel Rosset. Donc cette salle polyvalente, il se passe de nombreuses choses. Déjà, c'est premièrement pour l'équipe du foyer, le lieu pour les réunions d'équipe. Les bénévoles peuvent l'utiliser parce qu'on a des animations qui sont proposées par les bénévoles, dont certaines autour de la langue française. J'allais dire outils d'intégration en France, hein, la maîtrise de la langue. Donc il leur faut des espaces pour pouvoir proposer tout ça. On a aussi, parce que c'est l'adresse historique du siège, le 3 Pères Chevrier, donc il peut y avoir des réunions en lien avec des décisions associatives via le conseil d'administration.
Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'effectivement ici on est rue Père Chevrier, malgré qu'on donne sur la rue Sébastien Griffe. Pourquoi ? Pour quelle raison ?
Historiquement, là où on est avant, il n'y avait pas l'extérieur qui nous était destiné.
Il y avait une rue en fait.
Il y avait une rue. Et donc l'adresse du 3 était dans aujourd'hui ce qui est nos locaux. Et avant, c'était une façade uniquement. Et puis au fur et à mesure de l'évolution de la structure, on s'est agrandi. On a gardé néanmoins notre adresse historique. Voilà, donc aujourd'hui, quand on écrit au foyer Notre-Dame des Sans-Abris, on écrit aux 3 rues du Père Chevrier.
Alors là, Melville, on vient dans un lieu qui est un petit peu historique. Hein.
Alors c'est un lieu chargé d'histoire. On est dans la chambre de notre fondateur Gabriel Rosset. Donc lieu dans lequel il a pu mener ses réflexions sur les actions à mener concernant l'association par la suite. Ses écrits de l'époque, ses réflexions, c'est un lieu de mémoire très important qui a été conservé, qui est au 5e étage de notre établissement.
Les petits carnets verts, c'est quoi
les
ces carnets verts ?
Les petits carnets verts, donc, qui sont très nombreux, carnets qu'il avait toujours sur lui, pour lesquels il pouvait annoter toutes les réflexions qui pouvaient... le traverser, donc là comme vous pouvez le constater, tout a été conservé. C'est un lieu qui n'est pas accessible à tout à chacun comme ça. Il est très important voilà, qu'on puisse maintenir ce lieu dans son jus de l'époque et qu'on puisse faire en sorte que ce lieu reste un lieu souvenir mais aussi une trace de l'action que Gabriel Rosset a pu mettre en œuvre au sein de notre association.
Et puisqu'on parle de l'histoire, ce fameux café du Monde Nouveau qui a donné le nom aujourd'hui à ce podcast, c'était quoi ? C'était où ?
Alors il était là. Effectivement, ça a été une transformation par la suite. Et le Monde Nouveau est resté le nom d'un des dispositifs à un moment qui est maintenant la résidence 85. Ça s'appelle plus le Monde Nouveau, effectivement, mais on a gardé historiquement cette trace-là. Et on est là où il y avait ce fameux café.
Ils étaient 11 la première nuit, c'est ça ?
Puis la seconde nuit, la troisième nuit, les choses se sont beaucoup amplifiées, le besoin était très présent, donc c'est pas le nombre de sans-abri qui manquait déjà à l'époque.
Et 71 ans plus tard, l'esprit est toujours là ?
On espère que dans les futurs projets à venir, des choses vont se penser parce que le Centre Gabriel Rosset a vocation aussi à se transformer. Des aménagements vont être proposés dans les années à venir. Donc on va néanmoins considérer l'histoire qu'il y a pu avoir et on se servira de cette histoire-là pour en créer une nouvelle par la suite et un avenir différent sera proposé à nos passagers avec l'idée que les cabines puissent être des lieux améliorés et que les gens puissent avoir des espaces plus intimes et avec un confort différent.
Merci beaucoup, merci pour cette visite.
Merci à vous, merci à l'attention que vous portez à notre centre, à notre association et ce fut un grand plaisir.
Merci Brigitte.
Merci beaucoup Gérald, moi aussi j'ai appris.
Quelle est ton impression alors ?
à brûle-pourpoint comme ça difficile. Hein. La taille, moi je dirais que la taille, un peu quand même le côté uniquement masculin qui fait qu'on voit les choses sous un angle quand même un petit peu triste. Et c'est vrai que moi j'admire le travail de tous les intervenants et de tous les bénévoles pour leur donner un peu de gaieté et un peu de logique dans la vie de tous les jours.
Merci beaucoup, on se retrouve pour un prochain podcast très bientôt, toujours dans un des sites du foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Merci.